La fin du règne de Louis XIII ressemble à ces tragédies où tout le monde meurt au cinquième acte. Les principaux personnages de la pièce disparurent en l'espace de quelques mois. Marie de Médicis partit la première. Elle mourut à Cologne le 3 juillet 1542. Non point dans un galetas, comme on l'a répété, mais dans l'ancienne maison de Rubens, et entourée de nombreux domestiques. 80 personnes au moins, d'après les legs énumérés dans son testament. Il est exact qu'elle devait à ses fournisseurs et que plusieurs de ses gens avaient fait des avances pour les dépenses de la maison. Mais c'est ce que nous voyons tous les jours autour de nous, dans les intérieurs où il n'y a pas d'ordre. La vieille reine avait encore sa vaisselle d'argent, qu'elle aurait certainement vendue si sa situation avait été ce qu'on a raconté. Marie de Médicis n'a donc pas terminé sa vie dans la misère. Elle n'en était qu'aux expédients. Cette grosse femme à Seine, qui jadis essayait de battre son mari, le roi Henri IV, n'avait manqué à personne en France. Sa mort y aurait passé inaperçue si la cour n'avait dû prendre le deuil, selon les rites compliqués et barbares de l'ancienne monarchie. Mademoiselle fut obligée de s'enfermer dans les ténèbres d'une chambre tendue de noir et aux fenêtres aveuglées. Il lui en coûta moins qu'il ne lui en eût coûté en tout autre moment. Elle était alors très affectée de l'affaire 5 mars et abandonnée de tous à cause de la nouvelle disgrâce de son père. Le deuil lui fut un voile commode. J'observais cette retraite, disent ses mémoires, dont toute la régularité possible. Je n'eus pas de peine à me priver de recevoir des visites. Il m'arriva tout ce qui prouve tous les malheureux. Personne ne me vint chercher. 3 mois plus tard, le 12 septembre, 5 mars fut décapité à Lyon avec son ami de Toux. Leur attitude devant la mort excita l'admiration universelle. Elle avait donc été belle au goût du temps. Preuve que la mesure et la simplicité n'étaient pas plus de mode dans la conduite des hommes qu'en littérature ou pour l'architecture des jardins. En sortant du tribunal pour aller au supplice, 5 mars et de tout rencontrèrent les juges qui venaient de les condamner. Ils les embrassèrent et leur firent chacun un beau compliment. Une grande foule s'était assemblée devant le palais. Ils la saluèrent de tous côtés profondément, avec une grâce non pareille, et montèrent en voiture dans un état d'exaltation. Ils se baisaient joyeusement, se donnaient rendez-vous au paradis et saluaient le peuple comme des triomphateurs. De tout battit des mains en apercevant l'échafaud. 5 mars y monta le premier. Il fit un tour sur l'échafaud, comme s'il eût fait une démarche de bonne grâce sur un théâtre. Puis il s'arrêta et salua tous ceux qui étaient à sa vue d'un visage riant. Après, s'étant couvert, il se mit en une fort belle posture, ayant avancé un pied et mis la main au côté. Il considéra haut et bas toute cette grande assemblée d'un visage assuré et qui ne témoignait aucune peur, et fit encore 2 ou 3 belles démarches. La mode est maintenant de mourir sans tant d'apparat. Cependant, les révolutions du goût ne doivent pas nous empêcher de rendre justice à ces jeunes gens, qui montrèrent véritablement un grand courage. Leurs louanges, partout répétées, vinrent raviver la honte et le chagrin de mademoiselle. Elle écrit au sujet de leur procès
« dont j'eus beaucoup de regrets ». Et par la considération de leur personne, et que monsieur était malheureusement mêlé dans l'affaire qui les fit périr, jusque-là même que l'on a cru que la seule déposition qu'il fit à monsieur le chancelier fut ce qui les chargea le plus, et ce qui fut cause de leur mort. Ce souvenir me renouvelle trop de douleur, pour que j'en puisse dire davantage.
Mademoiselle s'attendait naïvement à trouver à son père, lorsqu'elle le révérait, un visage triste et embarrassé. C'était mal le connaître. Dans l'hiver qui suivit la mort de 5 mars, il reparut, devant elle, la face rayonnante, et toute la joie de rentrer à Paris.
« Il vint descendre chez moi, »
rapporte sa fille.
« Il soupa chez moi, où étaient les 24 violons, et il y fut aussi gai que si Monsieur de 5 mars et de tout ne fussent pas demeurés par les chemins. J'avoue que je ne le pus voir sans penser à eux, et que dans ma joie, je sentis que la sienne me donnait du chagrin. »
Vers le même temps, elle éprouva à ses dépens combien son père était peu sûr, et le reste de ses illusions finales y passa. Ce fut ensuite à Richelieu, à disparaître de la scène. Il était malade depuis longtemps, paralysé, le corps pourri d'abcès et d'ulcères. Son maître et lui se guettaient à qui mourait le premier, chacun formant de vastes projets pour le moment où il serait débarrassé de l'autre. En cet état, le cardinal offrit aux Français un dernier spectacle qui fut le plus original et le plus impressionnant de tous. Il était reparti de Lyon pour Paris le jour du procès 5 mars. Le voyage lui prit 6 semaines. La foule accourue sur son passage voyait d'abord paraître des chariots traînant les matériaux d'un large plan incliné. À quelque distance, suivait un petit corps d'armée qui escortait une chambre portative, chargée sur les épaules de 24 gardes du corps, tête nue sous la pluie et le soleil. On apercevait dans cette chambre une table, une chaise et un lit magnifique, où gisait l'homme très intéressant pour le peuple, qui abattait comme des noix les têtes de ces beaux seigneurs que paysans et ouvriers sentaient si prodigieusement loin. Au-dessus d'eux, la chaise et la table étaient pour les audiences ou pour le secrétaire auquel Richelieu dictait pendant la route ses ordres aux armées et ses dépêches diplomatiques. En arrivant à l'étape, la maison où il devait loger avait été éventrée à la hauteur de sa chambre. Tout ce qui en aurait gêné les approches était abattu ou nivelé, et le rampant appliqué contre la façade. La lourde machine le gravissait jusqu'à la brèche, d'où elle s'engouffrait, sans secousse, dans la maison. Quand les circonstances s'y prêtaient, on embarquait cet attirail sur un bateau. Le cardinal entra ainsi par eau dans Paris. Il vint débarquer en face de son palais, au port au foin, et fut porté chez lui à travers une foule qui s'écrasait pour voir cette espèce de triomphe d'un cardinal et d'un ministre couché dans son lit, qui retournait avec pompe après avoir vaincu ses ennemis. Cependant, les regards de Richelieu fouillaient à droite et à gauche, la cohue prosternée. Il y reconnut une personne compromise dans l'affaire 5 mars et lui fit crier, séance tenante, de venir s'expliquer au palais cardinal. Les semaines qui suivirent furent pénibles. Depuis le dernier complot, Richelieu était en défiance du monde entier, le roi compris, et rêvait d'assassins jusque dans la chambre royale. Il voulut forcer le monarque à chasser plusieurs officiers de sa garde. Louis XIII se révolta. Après des discussions violentes, des récriminations mutuelles, le cardinal eut recours aux grands moyens. Il s'enferma chez lui, refusa de recevoir les ambassadeurs et menaça de donner sa démission. Une fois de plus, le roi céda. Ces deux moribonds se retrouvèrent ensuite d'accord pour prendre des précautions contre Gaston d'Orléans. Le Parlement reçut la déclaration du roi contre Monsieur, à laquelle Mademoiselle fait allusion dans ses mémoires. Louis XIII y exposait à ses sujets les complots et les trahisons de son frère, et ajoutait qu'au moment de lui pardonner, pour la 6e fois, il commençait par lui ôter les moyens de nuire, supprimant ses compagnies de gendarmes et de chevaux légers, et le privant présentement du gouvernement d'Auvergne, dont nous l'avions gratifié, et pour l'avenir, de toutes sortes d'administrations en cet état. La déclaration fut envoyée à Mathieu Mollet, le 1er décembre 1642. Le jour même, le cardinal eut une crise violente et, le lendemain, il était perdu. Il se prépara à la mort avec fermeté, ainsi qu'il convenait à un homme de sa trempe. Son confesseur lui ayant demandé
« S'il ne pardonnait pas à ses ennemis, il répondit qu'il n'en avait point que ceux de l'État. »
Il y a une part de vérité dans cette parole, et c'est le grand titre de gloire de Richelieu. Au dehors ou au dedans, quiconque en voulait à la France ou à son gouvernement s'en prenait au cardinal.
Toutes les hostilités étaient dirigées contre sa personne.
Car il était l'obstacle. Sa politique avait été dominée par deux idées immuables, qui devinrent toujours plus arrêtées et plus volontaires. Elle consistait à soumettre toutes les volontés particulières à l'autorité royale et à développer l'influence française en Europe. On a déjà vu la place que notre pays avait prise dans le monde sous son ministère. Richelieu avait accompli non moins victorieusement son œuvre à l'intérieur.
L'idée de la puissance monarchique, dit Ranc, était devenue comme un dogme religieux. Quiconque le rejetait devait être poursuivi avec la même rigueur et presque avec les mêmes formes que les hérétiques.
Louis XIV pouvait venir. La monarchie absolue allait trouver son litouffet. Richelieu rendit l'esprit le 4 décembre 1642. La nouvelle en fut aussitôt portée au roi, qui se contenta de dire
« Il est mort un grand politique. »
À l'étranger, nos ennemis eurent grand contentement et nos alliés grand déplaisir, parce qu'ils eurent également la pensée que tout irait de travers et serait sens dessus-dessous. En France, le soulagement fut universel. Personne ne doutait que la mort du cardinal ne fût le signal d'une révolution. Les bannis s'attendaient à être rappelés, les prisonniers à être délivrés. L'opposition comptait entrer au pouvoir, et les grands rêvaient d'une abbaye de Télède. Quant à la masse des Français, elle a toujours aimé le changement, pour le changement. L'espoir d'un bel enterrement agitait aussi sur le populaire parisien. Et de ce côté-là, l'attente ne fut point trompée. Il y eut d'abord exposition publique du corps en costume de cardinal. La queue des curieux était si longue qu'on mettait un jour et une nuit à arriver devant le lit de parade. Cela dura près d'une semaine. Le 13 décembre eut lieu l'enterrement, dont les badauds se déclarèrent satisfaits. Le char à 6 chevaux était tout à fait remarquable. Mais la révolution ne venait pas. La grande mademoiselle fut la première à s'apercevoir que Louis XIII préparait une déception à son royaume. Elle avait, malgré tout, de l'affection pour son père, qui lui était d'ailleurs impossible de se séparer de la gloire de sa maison. Elle courut au Louvre en apprenant la mort de Richelieu.
Aussitôt que je le suis, j'allais trouver le roi pour le supplier d'avoir quelque bonté pour monsieur. Je croyais prendre une occasion très favorable pour le toucher. Il me refusa et alla le lendemain au Parlement faire enregistrer contre lui la déclaration dont on sait le sujet, sans que je l'explique ici. Je voulus me jeter à ses pieds lorsqu'il enterrait au Parlement pour le supplier de n'en pas venir à cette extrémité. Il en fut averti et me l'envoyait défendre. Rien ne put le détourner de son injurieux dessein.
Le 4, après la visite de sa nièce Louis XIII, avait appelé Mazarin à continuer son œuvre. Le 5, il avait envoyé au Parlement et au gouverneur des provinces une circulaire leur annonçant la mort du Premier ministre et coupant court au bruit de crise gouvernementale. Le roi, disait ce document,
était résolu de conserver et d'entretenir tous les établissements ordonnés durant son ministère, de suivre tous les projets arrêtés avec lui pour les affaires du dehors et de l'intérieur, en sorte qu'il n'y aurait aucun changement.
L'immense fortune amassée par le cardinal passa à ses héritiers sans enquête indiscrète, et Louis XIII y ajouta une distribution de places. L'ombre du mort continuait de régner.
Tous les malheurs du cardinal subsistèrent,
s'écrie mademoiselle.
Monglat rapporte qu'on osait à peine se communiquer la nouvelle de sa mort, comme si l'on eût craint le retour de son âme. Le roi même l'avait tellement respecté de son vivant qu'il l'appréhendait encore après sa mort.
La débâcle se fit pourtant en sourdine au bout de quelques semaines. Le 13 janvier 1643, monsieur eut la permission de venir saluer le roi à Saint-Germain et en fut bien reçu. Le 19, Bassompierre et deux autres seigneurs sortirent de la Bastille. En février, les Vendômes revinrent d'exil. La vieille madame de Guise, grand-mère de mademoiselle, reprit aussi la route de France où sa petite fille lui fit fête. Louis XIII devenait chaque jour plus facile au pardon. La raison en était simple. Il allait mourir et le sentait. Il montrait à ses familiers ses membres de squelette, couverts de larges taches blanches, et leur comptait qu'il avait été réduit en cet état par ses bourreaux de médecins et par la tyrannie du cardinal, qui ne lui faisait jamais faire les choses que par la contrainte, de sorte qu'il avait succombé sous les peines. Il avait rempli ses devoirs religieux avec de grandes démonstrations de piété. Les députés du Parlement étaient venus ouïr devant son lit la déclaration qui donnait le titre de régente à Anne d'Autriche, et la réalité du pouvoir, un conseil nommé d'avance. Le roi Louis XIII n'avait plus rien à faire dans ce monde, où sa maladie était accompagnée de tout ce qui peut donner envie d'en finir. Douleurs cruelles, misères dégoûtantes, puanteurs abominables, et le reste du cortège des lentes agonies. Le malheureux mit plusieurs mois à mourir, avec des hauts et bas inattendus qui dérangeaient les intrigues de la cour et produisaient de grandes agitations à Saint-Germain. Le roi habitait le château neuf, bâti par son père, et dont il ne reste plus que le pavillon Henri IV. Anne d'Autriche était demeurée avec la cour au château vieux que connaissent tous les Parisiens. Dans les bons jours, cet arrangement assurait aux malades un repos relatif. Dans les mauvais, Louis XIII n'échappait pas au supplice inventé par l'étiquette. La foule du château vieux venait assiéger ses appartements pour assister à son agonie. Elle s'y rencontrait avec le flot accouru de Paris. Et c'était un piétinement, un entassement, un bruit, une chaleur affreusement pénible pour le roi, qui demandait en grâce qu'on s'écartât de son lit pour lui laisser un peu d'air. Une rumeur montait de la cour et s'accompagnait d'explosions de sifflets ou d'applaudissements au passage des hommes politiques. Les laquais et les pages étaient alors en possession de représenter l'opinion publique, comme de nos jours les camelots et les marmitons, et ils manifestaient en attendant leur maître. La crise passée, courtisans et parlementaires s'envolaient vers Paris, ou les appelaient des musiques de danse et la lumière des fêtes.
« Il n'y eut jamais tant de bals que cette année-là, »
dit mademoiselle. « Je me trouvais à tous. » La crise finale survint le 14 mai. Dès que le roi eut rendu le dernier soupir, la reine se retira avec toute la cour et chacun fit prendre ses mesures pour partir le lendemain de bon matin. Le déménagement eut la prestesse d'une levée de camp. De longues files de chariots changés, de meubles et de bagages commencèrent avec le jour à dévaler la colline de Saint-Germain. Elles ne tardèrent pas à se mélanger de carrosses à six chevaux et de groupes de cavaliers. Un grondement accompagnait ce défilé, qui ne s'interrompit qu'à 11 heures, pour laisser passer un corps d'armée où s'encadrait la famille royale, escortés des maréchaux de France, des ducs et pairs, de toute la noblesse, tous à cheval. Après, le dernier bataillon reprenait les chariots et les carrosses, noyés à présent dans le flot de Valtaille et des gens de tout métier que traînaient après soi toutes les grandes maisons. Saint-Germain finit pourtant par se vider. Le dernier galopin parti, le bruit de foule en marche s'éloigna et s'assoupit. Le Châteauneuf s'enveloppa de silence et le rideau tomba sur le cinquième acte du règne de Louis XIII. Il n'était resté sur la scène qu'un cadavre, léger comme une plume, auprès duquel veillait un lieutenant et quelques soldats.